Bonjour à tous. Pour débuter ce culte, je vous invite à commencer par une lecture dans le psaume 96. Je vous invite à laisser un doigt dans le psaume 96, on va le lire plusieurs fois, en plusieurs fois. Chantez à l'Éternel un cantique nouveau. Chantez à l'Éternel toute la terre. Chantez à l'Éternel, bénissez son nom. Annoncez de jour en jour la bonne nouvelle de son salut. Racontez parmi les nations sa gloire, parmi tous les peuples ses merveilles. Est-ce que vous vous rendez compte que parce que Christ est mort sur la croix, parce qu'il s'est approché de nous, maintenant nous, on peut s'approcher de lui librement. Et le premier chant que nous allons chanter, c'est « Béni soit son nom ». Béni le nom de l'Éternel. Et on peut se lever.
Béni soit ton nom, l'altitude de l'abondance, et déverse ta bienveillance, béni soit ton nom. Et béni soit ton nom, quand ma vie traverse un désert, quand je marche en terre inconnue, béni soit ton nom. Seigneur, fais voler ton relais, chant de louange. Et même au cœur de la nuit, Seigneur, je redirai. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom. Béni soit ton nom, quand sur moi brille le soleil, quand la vie semble me sourire, béni soit ton nom. Et béni soit ton nom, sur la route semée de souffrance, tu m'en coûtes d'offrir ma louange, béni soit ton nom. Bienfait ton étranglé, chant de louange. Et même au cœur de la nuit, Seigneur, je redirai. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom.
Béni soit ton nom, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom,
le nom du Seigneur, béni soit ton nom glorieux.
Je demandais à Élisabeth si elle peut remettre le culte entre les mains du Seigneur. Les versets 4 à 5 du psaume 96 disent « Car l'Éternel est grand et très digne de louange. Il est redoutable. » Alors ça fait un peu écho à la prédication le dimanche passé. Ce grand Dieu, le grand Dieu des cieux, grand et redoutable. Il est redoutable plus que tous les dieux, car tous les dieux des peuples sont de faux dieux. Mais l'Éternel a fait les cieux. C'est un Dieu créateur qui a fait les cieux et la terre. Et à lui seul soit la gloire, la louange, le règne et l'autorité.
Dieu créateur de la terre et des cieux, nous contemplons ton ouvrage. Tu as voulu que les hommes en tout lieu découvrent ton vrai visage. À toi la gloire et la louange, à toi le règne et l'autorité, la révérence et la puissance, l'adoration t'appartient. Dieu éternel, toi le tout suffisant, et l'être le plus sensible. Tu es parfait et vraiment étonnant, pour toi rien n'est impossible. À toi la gloire et la louange, à toi le règne et l'autorité. Dieu souverain, tu n'es jamais lointain, tu connais tous nos besoins. Tu as prévu pour chacun un chemin, nos vies sont entre tes mains. À toi la gloire.
À toi la gloire.
À toi la gloire et la louange. À toi le règne et l'autorité, la révérence et la puissance, l'adoration t'appartient à jamais.
Versets 6 à 8. L'éclat et la magnificence sont devant sa face. La puissance et la splendeur dans son sanctuaire. Famille des peuples, rendez à l'Éternel. Rendez à l'Éternel gloire et puissance. Rendez gloire au nom de l'Éternel. Apportez des offrandes en entrée et entrez dans ses parvis. Et le chant qui m'est venu par rapport à ce passage, c'est le chant qui nous dit que Dieu est puissant dans les lieux célestes. Et pour la durée de temps, pour la durée des temps, on va le louer. C'est le chant suivant, 166. Qui mérite toute la louange, notre adoration pour sa gloire. Et au verset 9, il est marqué, prosternez-vous devant l'Éternel avec des ornements sacrés. Tremble devant lui, terre entière. Dites parmi les nations, l'Éternel règne. Ainsi, le monde est ferme. Il ne chancelle pas. L'Éternel juge les peuples avec droiture. Prosternez-vous devant votre roi. Adorez-le de tout votre cœur. Faites monter vers sa majesté des chants de gloire. Pour votre roi de roi.
Thank you.
au verset 11, « Que les cieux se réjouissent et que la terre soit dans l'allégresse, que les mers retentissent avec tout ce qui la remplit, que la campagne exulte avec tout ce qui s'y trouve, que tous les arbres et les forêts lancent des acclamations. Grandes et merveilleuses sont toutes les œuvres de notre grand Dieu, notre grand Seigneur, grand et redoutable. »
Grandes et merveilleuses sont toutes tes œuvres, ô Seigneur notre Dieu tout-puissant, juste et véritable, dans toute ta volonté, toi le roi éternel, qui sur la terre et dans le ciel est semblable. Grandes et merveilleuses sont toutes tes œuvres, ô Seigneur notre Dieu tout-puissant, juste et véritable, dans toute ta volonté, toi le roi éternel, qui sur la terre et dans le ciel est semblable à toi. Tout genou fléchira, toute langue te bénira. Alléluia, 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 amen. Laï, 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 laï.
David et de Salomon, avec Maria en tête pour nous montrer l'exemple et taper dans les mains. Mais maintenant, on va se poser. On va se mettre devant la face de notre Seigneur. Et le dernier verset dit, « Devant l'Éternel, car il vient pour juger la terre, il jugera le monde avec justice et les peuples selon sa fidélité. » Alors, on va se mettre devant la face de notre Seigneur Jésus, se prosterner et le contempler. Et essayez de suivre bien les musiciens, parce qu'on va rester aussi un petit temps aussi à écouter juste la musique. Et puis après, on prendra le temps de prière.
Devant ta face, Seigneur Jésus, je me tiens prosterné, je veux te contempler, inonde-moi. Devant ta face, Seigneur Jésus, je me tiens prosterné, je veux te contempler, inonde-moi de
Oui, Seigneur, transforme-nous à ton image, Seigneur. Merci pour ton amour, Seigneur. Cet amour qui est allé jusqu'à la croix, Seigneur, pour nos péchés, Seigneur, pour qu'un jour on puisse se présenter devant toi, Seigneur. Merci parce que tu nous donnes accès au Père, Seigneur. Merci parce qu'on peut le louer, Seigneur. Merci parce qu'on peut se rendre compte de tous ses bienfaits, Seigneur, de son amour et de tout ce qu'il a fait pour nous, Seigneur. À lui seul soit l'honneur, la gloire et la louange. Amen.
Seigneur, je veux te louer, je veux t'adorer parce que tu es ce Dieu merveilleux. Et tout ce que tu fais, Seigneur, est merveilleux. Merci, Seigneur, pour ta justice. Merci pour Jésus-Christ. Merci, Seigneur, pour cette croix qui a été dressée sur le mont Golgotha. Merci, Seigneur Jésus, parce que ton amour t'y a poussé. Et Seigneur, merci parce que tu t'es laissé, Seigneur, sacrifié. Tu as donné ta vie, Seigneur. Et merci parce que tu as versé ton sang pour chacun de nous. Merci parce que tu es vivant aujourd'hui et tu règnes avec ton Père dans les cieux. Et Seigneur, du haut des cieux, tu nous regardes et tu nous aimes encore plus. Même Seigneur, si nous sommes laids à toi, par ton sang, Seigneur, au travers de ton sang, tu nous vois tel que nous devrions être. pour nous montrer le chemin. Tu as dit, Seigneur, que tu es le chemin, la vérité et la vie. Et Seigneur, tu as aussi dit, Seigneur, pour nous montrer, pour nous révéler le Père. Ce Père plein d'amour, ce Père plein de bonté, de miséricorde envers chacun de nous. Et Seigneur, je veux aussi essayer, Seigneur, de te ressembler. Seigneur, aide-moi à te ressembler, afin, Seigneur, que le monde voit que je t'appartiens, que je suis à toi. Seigneur, merci pour tant de bonté et tant d'amour. Au nom de Jésus, Amen. Amen.
Merci Seigneur pour ta grandeur. Merci Seigneur parce que tu es grand, tu es tout puissant, omniprésent, omniscient et en même temps tu es si proche de nous. Seigneur, tu penses que l'on est l'amour pour nous écouter. Et Seigneur, merci car tu nous apprends à t'écouter aussi. Seigneur, merci car tu nous donnes tout ce dont nous avons besoin pour vraiment déjà te plaire et pour te vivre une vie qui est digne de toi. Seigneur, louange à toi.
Amen. Seigneur Jésus, merci de t'avoir tout le monde et ta mère. Merci de t'avoir tout le monde. Amen.
Amen. l'œuvre par excellence, celle de la croix du calvaire, où là, en ton Fils bien-aimé, tu voulais réconcilier le monde avec toi-même. Tu voulais, Seigneur, pardonner le pécheur en répandant le sang de ton Fils bien-aimé pour nous réconcilier avec toi-même. Dieu trois fois saint, réconciliant le pécheur, ta justice a été pleinement satisfaite en condamnant l'unique juste, ton Fils bien-aimé. Et parce qu'il a été fait péché pour nous, parce qu'il est mort de notre mort, parce qu'il a porté la condamnation qui pesait sur nous, voilà que maintenant ta grâce peut opérer à notre égard et ainsi nous libérer du poids de cette condamnation. La paix est maintenant avec nous, de notre côté, et nous voulons, Seigneur, raconter les merveilles de celui qui nous a sauvés par le sang précieux de la croix du calvaire, par son sacrifice unique. Et nous voulons te bénir, ô notre Dieu, parce que tu as scellé cette œuvre parfaite en le ressuscitant, en ressuscitant ton Fils bien-aimé d'entre les morts et en le faisant asseoir à ta droite, jusqu'à ce qu'il ait mis ses ennemis au marchepied de tes pieds. Seigneur Jésus, l'œuvre par excellence, elle est parfaite. Et nous voulons raconter cette œuvre merveilleuse qui a fait de nous des enfants de Dieu lorsque, dans la repentance, nous sommes venus au pied de la croix et lorsque, par ton esprit, tu as déversé la vie de ton Fils bien-aimé en nous. Cette vie qui opère jour après jour par ta parole et par l'action de ton esprit, nous transformant jour après jour à la ressemblance de ton Fils bien-aimé. Seigneur notre Dieu, ton œuvre, elle est belle. Sa valeur, elle est éternelle. Nous possédons grâce à elle l'accès des cieux, et bientôt nous allons fouler ce ciel et être, quand nous verrons ton Fils bien-aimé, à la ressemblance parfaite de ton Fils bien-aimé. En attendant, pour cette œuvre merveilleuse, nous allons balbutier quelques mots et te dire qu'à toi soit la reconnaissance dès maintenant et pour toujours.
Amen. Pour clôturer ce moment de louange et pour faire un peu une jonction entre la prédication de Daniel tout à l'heure, on va chanter le chant qui nous dit « Feu du fondeur, purifie mon cœur, rends-moi aussi pur que l'or et l'argent ».
Seigneur, vie, je choisis d'être saint, mis à part pour toi, mon seul maître, et prêt à te bénir. Purifie mon cœur, rends-moi aussi pur que l'or et l'argent. Purifie mon cœur, rends-moi aussi pour toi, Seigneur, oui, je choisis d'être saint, mis à part pour toi, mon seul être, et prêt à te bénir.
Vous vous asseoir. Quelques annonces. Alors pour les membres de l'Église, j'annonce déjà que l'Assemblée Générale de l'Église aura lieu le 15 mars. Donc notez déjà ça dans votre agenda. Donc le 15 mars, on aura l'Assemblée Générale de l'Église à 14h. Donc bon, les papiers suivront, mais comme ça au moins vous pouvez déjà bloquer la date. Je rappelle aux responsables de ministère qui doivent faire venir à moi ou à Paolo les rapports sur leur ministère. Donc c'est la grosse Assemblée Générale. Donc, il faudra qu'on aille ça quand même assez rapidement pour pouvoir les imprimer. Deuxième chose, le corps d'église. Alors, on est un peu inquiet parce qu'on a 4 inscriptions. Donc, là, on a déjà dit OK pour le corps, on a déjà payé des acomptes. Donc, voilà, il va falloir un peu vous manifester pour le camp. Donc, je rappelle que c'est du 8 au 10 mai. Donc voilà, pensez à vous inscrire. Voilà la fiche d'inscription. Non, c'est pas la fiche d'inscription, ça c'est l'explicatif. Voir avec Piotr pour payer éventuellement un acompte pour qu'on puisse bloquer votre date. Donc le but c'est de faire un camp avec l'église tout entière, enfin un maximum de personnes. C'est pas d'ouvrir à toutes les églises. Donc si vous vous manifestez pas, on va devoir ouvrir aussi à plus d'églises. Donc il y a déjà l'église de Charneux, enfin Verviers. Qui vient comme la fois dernière, mais on veut être ensemble aussi au corps d'église, donc vous êtes tous les bienvenus, mais il faut penser à vous manifester. Et il y aura des feuilles là-bas, et je pense que j'en ai encore laissé aussi en bas. La semaine prochaine, nous aurons aussi l'offrande mission, donc pensez à préparer aussi ça pour la Pologne et aussi pour nos 2 étudiants. Cet après-midi, Royal Rangers, on va remettre les étoiles, on va remettre les badges. On va avoir aussi une petite méditation sur un Jésus serviteur, mais qui est allé beaucoup plus que de servir. Donc vous êtes tous invités après. Alors ça n'a pas été clair pour tout le monde. Donc, on vous offre une pâtisserie à 14h, mais on ne vous offre pas à manger sur le temps de midi. Maintenant, vous pouvez rester manger avec nous avec vos tartines. Il n'y a pas de souci comme on fait chaque fois. Vous êtes les bienvenus si vous n'avez pas envie de rentrer. Quelques nouvelles. Je suis content de voir nos convalescents qui sont là. Je pense à Valdi, à Léon, à Myriam, à Dani, à Salvatore, à Michel, à Catherine, à Marie-Paul. Pensez à prier pour nos personnes, les personnes qui sont convalescentes dans notre église ou malades. Pensez à prier pour vos personnes plus âgées. Et alors, une annonce plus particulière, c'est pour Hélène. Donc Hélène, pour ceux qui ne le savent pas, est rentrée vendredi. Donc elle a eu l'autorisation de quitter le Val-d'Or et de regagner sa maison. Sauf que ce matin, elle aurait pris un cachet qu'elle ne devait pas, et du coup elle est paralysée dans son lit. Donc on ne sait pas encore quoi ou comment, on attend les médecins, mais pensez à prier pour elle. Donc on vous demande de ne pas, après le culte, aller voir Hélène, donc elle n'est du coup pas bien, donc voilà, mais pensez à prier pour elle, ou peut-être quelqu'un pourrait le faire. Je demande à Ernest s'il peut prier pour Hélène.
Amen.
Je n'ai pas d'autre annonce. Non. On va se lever. Alors voici le moment des offrandes pendant que les préposés vont passer. On va chanter le chant qui nous dit « Seigneur, attire mon cœur à toi. Je te désire tout près de moi. » à peine s'il peut prier pour les offrandes.
Seigneur mon Dieu, je voudrais te remercier, Seigneur, parce que ce matin encore, tu nous permets de venir dans ta maison, Seigneur, pour écouter, Seigneur, ta parole, Seigneur, pour te rendre gloire, Seigneur, par mon choix, Seigneur, mais aussi pour te rendre, Seigneur, une partie de ce que tu nous as donné, Seigneur. Je demande, Seigneur, de bénir ces offrandes, Seigneur, de que l'on puisse utiliser cet argent, Seigneur, pour l'avancement de ton royaume, Seigneur.
Amen.
Et que tu puisses, Seigneur, guider toutes choses. Dans le nom de mon Seigneur Jésus-Christ. Amen.
Amen. Daniel.
De vous voir et bénir le Seigneur de ce que nous pouvons encore être devant sa face, comme on l'a chanté, hein. D'une part pour le louer, mais aussi pour être encouragés, pour nous encourager les uns les autres dans le chemin. Ici ce matin, de ma bouche et au nom du Seigneur, il y a quelques exhortations qui sortent. Sachez que l'exhortation s'adresse premièrement à moi. Donc que personne ne se sente visé en particulier, et si c'est le cas, que ce soit le Saint-Esprit qui agisse dans nos vies, comme on vient de chanter « Te ressembler, Jésus ». Il y a quelques semaines déjà, au début de la nouvelle année, nous avons souligné toute la tendresse du serviteur de l'Éternel, dont le nom est noté dans les évangiles, à savoir Jésus-Christ. Toute la tendresse, toute la miséricorde, toute la patience, toute la fidélité de ce serviteur de l'Éternel, malgré l'état de faiblesse, de misère dans laquelle l'homme se trouve. Deux textes dans la parole de Dieu mentionnent les caractéristiques de ce serviteur parfait, mais aussi décrivent par deux images l'état moral et spirituel de l'homme. Les deux textes se trouvent d'une part dans l'Ancien Testament, le prophète Ésaïe, au chapitre 42, ainsi que dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 12, et les deux textes coïncident l'un avec l'autre. Je ne me rappelle plus, je pense avoir lu avec vous dans l'évangile de Matthieu il y a quelques semaines. Je vous invite donc de lire dans le prophète Ésaïe, au chapitre 42, et nous lirons les quelques premiers versets. Texte qui a déjà été lu voici quelques semaines et qui retracera les deux images pour parler de ce que nous sommes. Ésaïe chapitre 42, et je lis à partir du verset 1er. Voici mon serviteur que je soutiens, mon élu, le bien-aimé de Dieu, celui pour lequel le ciel s'est ouvert à plusieurs reprises pour attester lorsqu'il était ici-bas sur cette terre, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui je trouve tout mon plaisir. Et nous poursuivons la lecture. Je soutiens mon élu, en qui mon âme trouve son plaisir. Je mettrai mon esprit sur lui, et il fera valoir le jugement à l'égard des nations. Il ne pliera pas. Il n'élèvera pas sa voix. Il ne la fera pas entendre dans la rue. Le verset 3 que nous allons souligner, il ne brisera point le roseau, autrement dit le feu du paille, ce qui est fragile, ce qui est foissé. Il ne brisera pas le roseau foissé. Il n'éteindra point le lumignon qui fume. Il manifestera la justice avec vérité jusqu'à ce qu'il ait fait droit, jusqu'à ce qu'il ait fait triompher la justice. Il ne se lassera pas. Il ne se hâtera pas jusqu'à ce qu'il ait établi le juste jugement sur la terre. Et les îles s'attendront à sa loi, ou dans l'évangile de Matthieu, et les nations espéreront en son nom. Là, la fin de la lecture. Voici quelques semaines, nous nous sommes arrêtés sur cette image reprise dans le verset 3 concernant le roseau. Et je ne vais pas reprendre tout ce qui a été dit, sinon que le roseau foissé, courbé, et tel que nous sommes parfois courbés par les circonstances de la vie, nous ratons le projet, le but pour lequel nous avons été créés, et Dieu, dans sa grâce, par le secours de sa parole et de son esprit, veut atteindre quand même son projet, et nous nous sommes rappelés les différentes utilisations que l'on pouvait faire avec le roseau, pour ceux qui n'étaient pas là ou pour ceux qui ont oublié. Et nous sommes sans doute plusieurs. Je rappelle que ce roseau pouvait être utilisé dans l'écriture, dans la musique, comme tuteur, comme canne à pêche, etc. Et Dieu voulait que nous ramener dans ce projet avec un roseau qui, de prime abord, en apparence, était inutilisable. Également un roseau aromatique, dont le parfum est utilisé dans le sanctuaire de Dieu. La deuxième image que nous voulons aborder maintenant, c'est concernant la mèche. J'ai allumé une bougie, elle lume devant nous. Une bougie qui est là pour éclairer. Et quand elle éclaire, l'obscurité est chassée. Est-ce que nous sommes conscients de cela? Si cette bougie arrêtait de lumer, de s'éclairer, l'obscurité réapparaîtrait. Vous allez me dire, une bougie, quand on est dans une grande pièce obscure, ça ne sert pas à grand-chose. Mais quand dans une église, il y a plusieurs bougies qui s'allument, alors là, ça éclaire davantage. D'où la nécessité que toutes les mèches qui brûlent viennent ensemble pour brûler du témoignage de Dieu. La bougie ou la mèche sert aussi à communiquer une certaine chaleur. Vous allez me dire, c'est pas beaucoup. Mais n'empêche, quand on met ses mains dessus, et puis je vous demanderai d'être quand même prudent si vous voulez laisser votre main sur la mèche, telle qu'elle est allumée, ça risque de se voir avec des cloques. Elle communique une certaine chaleur. La chaleur de la paix, la chaleur de la joie, la chaleur de l'amour. Elle donne de l'espérance parce que l'obscurité disparaît. Là aussi, une seule mèche, ça ne communique pas beaucoup de chaleur. Mais quand toutes les mèches se rassemblent, alors là, on est bien dans la chaleur de la communion fraternelle. Aujourd'hui, il y a des mèches, des bougies qui sont parfumées. Et voilà que ça sert aussi à étouffer les mauvaises odeurs et à parfumer un lieu dans lequel la bougie est en train de brûler. À certaines occasions, en particulier lors de mariages, voire de naissances, ou d'événements heureux d'anniversaire et autres, il ne faut pas grande parole pour découvrir dans les yeux des futurs mariés, dans les yeux des parents face à leur nouveau bébé, dans les yeux d'un événement heureux, il ne faut pas beaucoup de paroles pour discerner que ça pétille, les yeux pétillent, ils sont amoureux. C'est évident. Et même si le petit gamin ou la petite gamine fait des bêtises, les parents, après la confession, pardonnent et restent toujours amoureux de leur petit. Ça scintille, ça vit, ça chauffe. Mais quelle détresse quand l'une des deux parties arrête de scintiller. Quelle détresse quand, plutôt que de briller d'un éclat pur sans vaciller, une des bougies est en train de fumer. Imaginons quelle est la détresse du Seigneur Jésus lorsqu'il regarde l'enfant de son Père, racheté à grand prix, au prix de son sang précieux, qu'il aime, à qui il dit « Je suis amoureux de toi ». Et voir de l'enfant de Dieu la lumière vaciller, au point que, plutôt de continuer à briller, elle fume. Si entre les hommes, il y a de la souffrance, avec le Père, la souffrance est d'autant plus grande parce qu'il avertit ses disciples que dans la fin des temps, à cause que l'iniquité du plus grand nombre sera grande, l'amour du grand nombre se refroidira. Mais nous avons affaire à un Dieu qui est compatissant. Un Dieu qui est lent à la colère. Et parce qu'il use de bonté encore aujourd'hui dans sa grâce, il a des projets encore merveilleux, même si la mèche que je suis est en train de fumer. Une mèche presque consumée, qui n'éclaire presque plus, où l'obscurité prend à nouveau le dessus, où la flamme n'est plus présente, où le bout de la mèche que je suis est encore un peu rougeâtre. Il faut peu pour que la mèche s'éteigne complètement. Le souffle d'un enfant, fini. Les deux doigts qui pincent, la mèche fumante s'est éteinte complètement. La mèche fume. Elle dégage une odeur désagréable. On est loin de ce que l'apôtre Paul écrivait à l'épître de Philippe en disant « Bien-aimés, il faut que vous brilliez au milieu d'une génération perverse et corrompue, comme on est loin de briller quand une telle situation morale et spirituelle arrive dans notre vie. » Et si c'est le cas dans ma vie, il est évident qu'une mèche fumante incommode, n'éclaire plus, pollue l'atmosphère. Et on n'a qu'une seule envie, c'est de chercher la porte de secours pour quitter une atmosphère aussi polluante. Dans cet état d'apparence, le serviteur de Dieu a encore un projet. Il a encore un projet. Il est plein d'ambition pour nous, même si c'est refroidi. Il veut nous réchauffer et à nouveau nous faire briller. Je l'ai déjà fait la semaine passée, il y a 15 jours ou 3 semaines. Je vais essayer de retenter la même expérience. Avec les ventilateurs. Mais ce qui me rassure, c'est que les jeunes, avec leurs parents, ont essayé. Il semblerait que ça a fonctionné, hein? Donc, on va essayer, quoi. Si ça ne marche pas, ce n'est que de la physique. Parce qu'avec Dieu, ça fonctionne. Ça fonctionne. Le Seigneur Jésus, lui, la lumière du monde, vient de me toucher par son esprit et sa parole, vient de me toucher, me communiquer et de me dire... Toi aussi, tu es la lumière du monde. Oh là, je vais me dire ça. Ah, rien. Pourquoi vous ne me disiez pas que j'allais me brûler? Voilà. Je vais essayer. Hein. Ça ne marchera pas. Non. Ça ne marchera pas. Non. Ah. Voilà. Normalement, s'il n'y avait pas les ventilateurs, à 30 cm, je peux réallumer, je ne sais pas par quel principe, mais je mets l'allumette ici. Et si je la mets dans le faisceau de la fumée, il y a ce contact qui fait que la bougie se réallume. Ici, vous avez pu le voir, à votre art de satisfaction. Vous admettez que j'ai réussi, quoi. Oui, ça va, ça va. Avec Dieu, ça réussit toujours. Quand ma mèche, spirituellement et moralement, est en train de fumer, les hommes... aurait envie de piétiner cette mèche, de l'écraser, dit tout, toi, on en a fini avec toi. Mais pas avec le serviteur de l'Éternel. Quand on vient se placer dans sa présence, sous son regard, il me rallume. Mais il faut se placer sous lui, devant sa parole. Laissez le Saint-Esprit agir dans ma vie et le miracle s'opère. Il n'en a pas fini avec nous. Ah, c'est beau, hein? C'est beau. C'est encourageant, hein? Je lis, je l'ai noté sur mes feuilles. Jésus disait, bien sûr, il le dit dans Jean, mais ici, dans, juste après les Béatitudes, ayant dit, vous êtes le sel de la terre, Jésus dira, vous aussi, vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et si Jésus parlait du disciple, permettez que j'extrapole une ville, c'est beaucoup plus qu'une seule personne. C'est plusieurs personnes qui sont rassemblées. C'est plusieurs enfants de Dieu qui sont rassemblés en un lieu, qui sont là sur la montagne de Dieu, éclairés et réchauffés par sa présence. Et ça doit se voir. Il dit, une ville située sur une montagne, c'est pas caché. C'est pas caché. Le monde va voir ça. Je n'allume pas. On n'allume pas une bougie pour la mettre sous le boisseau. Bien-aimé, le serviteur parfait, même si la mèche fume, il n'est pas là avec un étouffoir. Non, il est là pour réchauffer, rallumer la mèche qui fume encore et lui donner de la vigueur, de la chaleur, de la lumière. Et quand cette mèche a repris vigueur, où la met-il? Selon Matthieu, il la met sur le chandelier pour qu'elle éclaire toute la maison. Ainsi, les hommes voient par cette lumière les bonnes œuvres que Dieu produit au travers de nous, qu'il a préparées pour nous, dans le but que les hommes eux-mêmes, voyant Dieu agir au travers de nous, que la lumière de Christ brille au travers de nous, que nous le reflétons, et un seul but, de glorifier le Père qui est dans les cieux. À quoi sert, bien-aimé, de dire que j'aime Dieu si je n'aime pas mon prochain? N'aimez pas en parole, mais en acte. Et je notais ceci dans mes feuilles, une vie qui reflète Jésus-Christ, une mèche qui brûle de Jésus-Christ, une mèche qui illumine de la lumière de Jésus-Christ, même si c'est un discours muet, parle beaucoup plus qu'un long discours avec des paroles. Il doit y avoir concordance entre nos attitudes et ce que nous disons. Sachez une chose, c'est que dans ce temps de la grâce dans lequel nous vivons, notre Seigneur Jésus n'a pas d'étouffoir. Il n'a pas d'étouffoir. Il est là pour ranimer et rallumer. J'ouvre une petite parenthèse, j'espère pas être trop long. Dans le tabernacle du temps du peuple d'Israël, lorsqu'ils étaient dans le désert, et ensuite arrivés dans le pays promis avec le temple, il y avait dans ce tabernacle plusieurs lieux, le parvis, le lieu saint, le lieu très saint. Et dans ce lieu saint, il y avait trois objets. Il y avait l'autel d'or, l'autel des parfums. Il y avait aussi la table des propositions avec du pain. Et il y avait aussi un chandelier. Ce chandelier qui devait briller, être allumé nuit et jour. C'est le contraire qu'on voit du temps de Samuel, hein, quand il était petit. Je ferme ma parenthèse. Pour que le chandelier brille jour et nuit, il fallait que le souverain sacrificateur, Aaron, du temps du peuple d'Israël dans le désert, apporte de l'huile. C'est normal. Mais comme la mèche était un fil de lin, elle se carbonisait. Il y avait donc, de la part de l'Éternel, lors de la fabrication du chandelier qui était fait d'eau en une seule pièce, battue, il y avait deux instruments qui étaient construits pour entretenir la mèche, pour qu'elle brille. Il y avait ce que la Bible appelle, selon les versions, soit des mouchettes, soit des pincettes. Les mouchettes ou les pincettes avaient pour but que Aaron, souverain sacrificateur, vienne couper la mèche qui fumait et permettre ainsi à la lumière de reprendre vigueur. Et ce carbone qui empoisonnait l'atmosphère, qui empoisonnait cette lumière d'être vivante, était alors placé dans ce que l'on appelle le vase à cendres, qui était alors déposé à l'extérieur du tabernacle. Bien-aimés, si nous voulons briller d'un éclat pur qui reflète la personne du Seigneur Jésus, il faut accepter que le Saint-Esprit nous remplisse continuellement, dont le symbole c'est l'huile. Et il faut accepter que la parole de Dieu, sous l'action du Saint-Esprit, fasse son œuvre d'émonder, de retirer ce qui empêche la mèche de briller d'un éclat pur. Ça fait mal. C'est douloureux. Ça réclame d'être humble devant Dieu. Mais c'est une situation qui est heureuse pour nous, pour chaque enfant de Dieu, et qui est à la gloire du Seigneur Jésus, parce qu'alors, nous serons dans ce monde des enfants de lumière. Des enfants de lumière. Je voudrais venir avec vous, si vous le voulez, parler du chandelier, de la mèche qui brûle, dans un texte qui se retrouve dans le dernier livre de la Bible, pour parler de l'église d'Éphèse. Et je vous propose de faire la lecture de Apocalypse, chapitre 2. Si nous avons parlé de nous-mêmes en tant que mèche, l'Église est considérée comme un chandelier ici, et nous allons retirer quelques instructions pour nous, quelques exhortations pour nous, quelques encouragements. Et je lis les trois premiers versets dans un premier temps. Apocalypse chapitre 2, les trois premiers versets. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui, donc le Seigneur Jésus glorifié. Voici ce que dit celui qui tient les sept étoiles dans sa main droite. Celui qui marche au milieu des sept chandeliers d'or. Il faudrait relire le premier chapitre pour voir qu'il s'agit de cette église mentionnée dans les chapitres 2 et 3 de l'Apocalypse. Verset 2. Je connais, autrement dit, le Seigneur glorifié, du haut du ciel, par l'entremise de Jean, fait dire à l'église d'Éphèse, je connais tes œuvres. Je connais ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants. Je sais que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas. Et tu les as trouvés des menteurs. Je sais que tu as de la persévérance. Je sais que tu as souffert à cause de mon nom. Et je sais que tu ne t'es pas lassé. Arrêtons là la lecture. Nous reviendrons plus tard sur le texte de la parole de Dieu. Je sais. Je vois que j'ai perdu une page. Bon. Ah non, elle est là. J'écris grand caractère pour avoir quelques notes. Le Seigneur Jésus, dans un premier temps, en regardant l'Église vivre, met l'accent, met en évidence ce qui est positif en son sein. Une Église qui est forte dans ses œuvres. Une Église dont l'œuvre sociale est aussi forte. Forte aussi dans ses offrandes, sans doute. Elle a à cœur l'évangélisation. Elle a à cœur de visiter les orphelins, les veufs, les malades. Elle fait les bonnes actions que le Seigneur a préparées pour elle. Il y a un groupe de louanges qui est formidable. C'est bien. Ils entretiennent bien le local dans lequel l'Église se réunit. Ça ne sent pas mauvais. Une personne a soin des WC. Ils mettent les rouleaux de WC suffisants. C'est bien. Ils organisent des agapes. C'est bien. Ils s'occupent des enfants. Et les enseigne, c'est bien. Ils occupent aussi les personnes âgées, c'est bien. Ils s'occupent des scouts, c'est bien. Ils prêchent la parole de Dieu, c'est bien. Ils ont des réunions de prière, c'est bien. Ils persévèrent dans la communion fraternelle, c'est bien. Est-ce que vous entendez, le Seigneur dit, c'est bien. Qu'est-ce qu'il est en train de dire à Éphèse? C'est bien. Il dit, il y a peut-être des menteurs parmi vous, et vous savez les reprendre. C'est bien. Il y en a qui amènent peut-être un évangile qui n'est pas le mien, et vous savez les reprendre. C'est bien. Vous soutenez les missionnaires, les étudiants qui sont... à l'école, c'est bien. Vous chantez, bien. Vous priez, c'est bien. Vous écoutez la parole de Dieu, c'est bien. Quel beau tableau! Faut-il espérer meilleur? On continue la lecture. Je lis au verset 4. Mais, oh là là, ça commence mal. Hein? Mais, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Et nous continuons, verset 5. Souviens-toi d'où tu es tombé. Repens-toi. Pratique les premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place si tu ne te repens pas. Ce texte dit pour moi quatre choses. La première, après avoir dit que tout était bien, en apparence, le Seigneur dit, là j'ai quelque chose contre toi. Compte. C'est que tu as abandonné ton premier amour. Et à cela, je veux aussi exhorter, ou tout au moins rectifier certaines paroles qui véhiculent. Certains disent que l'église d'Éphèse avait perdu son premier amour. La parole ne dit pas cela. Elle a abandonné. L'abandon est un acte volontaire. On abandonne un chien sur l'autoroute volontairement pour se prendre du plaisir en vacances. On abandonne une personne âgée parce qu'elle est nuisible dans la société. Mais perdre signifie égarer, involontairement. Je me rappelle un jour avoir perdu ma petite fille, alors que je lui tenais la main, d'avoir perdu ma petite fille dans un supermarché. Et je vous assure que quand on s'en est rendu compte, même si l'acte était involontaire, on s'est vite empressé d'aller à sa recherche. Il n'y a pas longtemps, à la banque, j'ai vu une dame d'un certain âge avoir perdu sa carte bancaire. C'était involontaire de sa part. Mais je vous assure qu'il s'est fallu de quelques secondes pour qu'elle s'en rende compte. Heureusement, la carte était à ses pieds. Ainsi, la parole de Dieu nous dit « Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné. » C'est volontaire. Tu as abandonné ton premier amour. C'est comme le Seigneur Jésus me dit à moi et à nous, tu n'es plus amoureux de moi comme au premier jour. Moi, je suis le même. Moi, je suis toujours amoureux de toi. Mais je ne vois plus l'étincelle. Tu sais, en apparence, tout est bon, tout est correct. Mais moi qui sonde les cœurs, je peux discerner où en est ton amour pour moi. Les œuvres que tu fais sont-elles encore animées par le zèle du premier amour? Sont-elles encore animées avec la joie du premier amour? Sont-elles encore avec la ferveur du premier amour? Et après avoir fait cette analyse, le Seigneur, deuxième étape, nous dit « Souviens-toi, souviens-toi ». Je sais que regarder en arrière peut devenir une entrave à la marche en avant. Je le sais. Et pourtant, à plusieurs reprises, nous sommes invités à nous souvenir, à mettre le rétroviseur pour regarder ce qui s'est passé en arrière. Je ne vais pas dire qu'il faut constamment voir cela, mais quand nous participons à cette scène, c'est de souvenir d'un amour immense que nous nous rappelons en rompant le pain et en buvant la coupe. Mais parfois, il est nécessaire de regarder le chemin parcouru et évaluer ce qui a été abandonné. De façon à ce que nous soyons, moi en particulier, si c'est le cas, être comme le fils prodigue, après m'être souvenu des bénédictions de la maison du Père, je me dise, je me lèverai, j'irai vers mon Père et je lui dirai, j'ai péché. Et ça, c'est le début de la repentance, c'est le moment où le Seigneur réanime notre amour. Et si on veut voir, moi mon amour est impeccable, je vous invite à lire l'hymne à l'amour dans 1 Corinthiens chapitre 13, et c'est comparé. Mon amour pour le Seigneur à ce que l'apôtre décrit comme caractéristique de l'amour, tel qu'il doit être. La plupart des prédications jusqu'à présent que j'ai entendues sur ce sujet insistaient sur le fait que nous n'aimons plus le Seigneur Jésus comme nous l'aimions au départ. Et c'est vrai, c'est vrai, c'est juste. Je dois me laisser sonder par la parole de Dieu et analyser que mon amour doit être constamment réchauffé. Et redire comme David autrefois, sonde-moi, ô Dieu, et connais mes pensées, et voici, je suis sur le chemin de la vérité, sur le chemin de l'éternité. Mais voilà que, il est dit ici, c'est le Seigneur qui dit, j'ai contre toi, et puis... Souviens-toi, autrement dit, regarde en arrière. Et quand je me rends compte que ça ne me va pas dans mon cœur vis-à-vis de Dieu, que je ne brille plus de la même intensité, j'ai beau regarder en arrière, je me culpabilise et je ne vois pas ce qu'il y a. Je ne vois pas ce qui ne va plus. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Où trouver la solution de ce qui ne va plus en moi? Où est-ce que j'ai glissé? Où est-ce que j'ai chuté? Et j'essaie, tant bien que mal, de rechercher un lieu avec une atmosphère d'amour qui va me remplir momentanément, qui va me réchauffer momentanément, mais est-ce que ça va durer? Si les circonstances de la vie font que, comme le roseau, je plie et comme il y a le vent qui souffle et qui risque de m'éteindre. Et dès lors, moi, je cherche constamment en moi les éléments propices pour réveiller la vigueur de mes sentiments pour Dieu. Mais voilà, j'avoue devant Dieu que je suis en panne. Et je ne sais pas. Je ne sais pas quoi faire. Alors, je me pose mille et une questions. Qu'est-ce qui a pu changer dans ma vie pour recevoir de mon Seigneur un tel reproche? Plein de questions sont là dans ma tête. Et plutôt que de rechercher, de continuer, de m'introspecter, de rechercher en moi, ce qui est juste, hein, ne faudrait-il pas rechercher ailleurs? Je vous lis un texte de la parole de Dieu qui engage ma volonté. Pour nous, dit l'apôtre Jean, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. C'est là, bien-aimé, que se trouve le premier amour. C'est pas en moi. Et s'il est en moi, c'est parce que le Saint-Esprit a déversé ce premier amour qui vient de Dieu, qui est divin. Il a déversé ce premier amour en moi. Ainsi, ce premier amour qui est de Dieu n'est pas la cause, mais est le résultat de son amour en moi. Ainsi, nous devons nous souvenir d'où nous sommes tombés afin de retrouver ce moment précis dans nos vies où le premier amour de Dieu, je l'ai saisi et je veux en vivre encore aujourd'hui. Et pour cela, j'ai besoin chaque jour de venir me frotter à cet amour, de me rappeler cet amour. Et je me pose la question, quand avons-nous cessé ces rendez-vous divins avec Dieu dans ma vie de chaque jour? Quand avons-nous cessé de nous rencontrer ensemble dans la communion fraternelle pour écouter la parole de Dieu et de nous frotter à l'amour divin? La vraie repentance est le chemin de la restauration. S'il n'y a pas de repentance, c'est sévère. C'est le Seigneur qui dit « J'ôterai le chandelier de sa place. » Plus de remède. La mèche fume et elle s'éteint. Dieu ôte le chandelier parce qu'il n'y a pas de repentance. Que le Seigneur me garde, nous garde, de nous satisfaire de la médiocrité d'un amour superficiel, mais de constamment nous réchauffer à son amour, pour que cette flamme brille. Et je termine, parce que l'heure est là, par le dernier verset, qui est un appel, verset 7, que celui qui a des oreilles s'il a parlé à l'Église, il parle maintenant à chaque croyant individuellement, et il dit que celui qui a des oreilles entend ce que l'Esprit dit aux Églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Nous sommes bien-aimés grâce à celui qui est victorieux, plus que vainqueur avec lui. Et nous pouvons être réchauffés par sa présence. En conclusion, j'aurais voulu parler de plusieurs personnes dans le Nouveau Testament qui ont été réchauffées malgré leur détresse, qui ont été réchauffées par cet amour divin. J'en cite un, Pierre. Oh Seigneur, ce que tu dis là, ça ne va pas t'arriver. Moi, je suis plus fort que les autres. Et pourtant, devant une femme qui insiste, « Tiens, tu n'étais pas avec lui, toi. » Il renie son Seigneur. Il faut le jour de la résurrection pour que le Seigneur l'interpelle sur le lac de Génézareth, une semaine après la résurrection. « Pierre, est-ce que tu m'aimes ?» Plus que, comme tu l'as dit. Alors, je crois, bien aimé, que le Seigneur s'adresse à moi en particulier, à tous ceux qui sont comme des roseaux froissés, qui ont cessé de briller et qui s'en rendent compte, qui se rendent compte de la médiocrité de leur vie à briller de l'étincelle de Jésus-Christ. Je crois que venir dans la présence du Seigneur est source de bénédiction et d'être échauffé, d'être réallumé par le Saint-Esprit. Je crois que nous devons faire confiance à celui qui est le maître et qui ne va pas étouffer la mèche qui fume encore. Et dès lors, puisque nous avons chanté de ressembler Jésus, soyons aussi à l'exemple du Seigneur Jésus, de ceux qui allons encourager, ceux qui, dont la mèche est en train de fumer et qu'on ne va pas être à notre tour en train de l'écraser. T'es inutile, toi. Mais au contraire, être de ceux qui allons, au nom du Seigneur, être des témoins de sa grâce et réchauffer le cœur. Je termine par deux versets bibliques. Je cite par cœur. À une femme qui avait été délivrée de ses péchés, d'un grand nombre de péchés, qui se trouve dans la maison de Simon. Simon qui fait des reproches à Jésus. Tiens, tu ne sais pas quelle est celle qui est en train de oindre tes pieds? Tu ne la connais pas? Et Jésus de dire à Simon, Simon, elle, elle oint mes pieds de ses larmes, elle les essuie avec ses cheveux. Toi, normalement, quand on invite quelqu'un, tu dois me donner un bassin pour me laver les pieds. Et Jésus te dit, à ton avis, il raconte une histoire, hein, suite à cela, avec quelqu'un qui doit beaucoup de sous et un qui n'en doit pas beaucoup. Et Jésus met la comparaison devant Simon, tiens, quel est entre ces deux débiteurs, la personne qui va aimer le plus. Ah, c'est celle qui a beaucoup à qui on a remis la dette. Et Jésus de dire, tu vois cette femme, elle m'aime beaucoup parce qu'il lui a été beaucoup pardonné. Bien-aimé, rappelons-nous le prix de notre pardon. Elle est source de repentance, elle est source de bénédiction, elle est source de pouvoir nous réchauffer. N'abandonnons pas, n'oublions pas ce fait immense de notre pardon. Et je termine par l'autre exemple. Il y en a beaucoup, l'autre exemple. On se rappelle des deux disciples sur le chemin d'Emmaüs. Ils sont là en train de fouiller Jérusalem. Un personnage les accoste. Ils ne découvrent pas que c'est le Seigneur Jésus. Et ils sont presque en train de lui faire de reproche. Car tu ne sais pas ce qui s'est passé. Tel seul homme passe à voir. Et Jésus prend la parole qui parle de lui. Et commençant par Moïse, commençant par les prophètes, commençant par cette parole, il leur expliqua tout ce qui le concernait. Et les disciples invitent ce personnage dont ils n'ont pas encore découvert que c'est le Seigneur Jésus. Ils l'invitent à rentrer dans la maison où ils allaient. Et là, quand ils rompent le pain, « Ah, mais c'est le Seigneur !» Que disent-ils ? « Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous expliquait les Écritures ?» Bien-aimés, si nous voulons briller d'un amour sincère, avec un zèle véritable, avec joie, si nous voulons servir le Seigneur, si nous voulons briller dans ce monde de la lumière de Jésus-Christ, alors que ceci soit le livre de notre chevet, que nous la lisions, parce qu'elle nous parle, elle nous communique, les vérités concernant celui qui est la lumière. Et nous serons sa lumière à lui dans ce monde. Nous brillerons comme des flambeaux dans un monde pervers et corrompu. Que le Seigneur nous aide, bien-aimés, à être de ses chandeliers, à de ses mèches. Le Seigneur n'en a pas fini. Je vais dire avec toi, ni avec moi. T'as un sentiment peu flatteur de toi. Jésus veut te réchauffer. Il l'a dit. Et j'y crois.
Amen.
Amen.
Alors, si vous voulez continuer cette réflexion sur ce que l'Esprit dit aux églises, lisez l'Apocalypse, mais il y a aussi un chant Pierre Lachat qui est assez qui explique vraiment bien les choses. Donc maintenant, avec toutes les plateformes numériques que vous avez, pouvoir aller voir ce chant de Pierre Lachat, ce que l'Esprit dit aux églises. Mais avant ça, je vais inviter Edwige et Sonia à nous interpréter un chant qui va dans le thème de ce qu'on a vu avec Daniel.
Thank you.
Merci aux musiciens, on a de plus en plus de musiciens, c'est encourageant, de choristes. On va finir par devoir mettre la chaire là-bas pour pouvoir avoir de la place pour nos musiciens. Bon, on va chanter un dernier chant. Hein. Le chant 150. Un chant que je n'avais pas mis dans la présidence au départ. Je me demande comment ça se fait. Lumière du monde venue dans l'obscurité, tu m'ouvres les yeux et je vois. Et me voici maintenant à tes pieds, me voici pour louer. Est-ce que vous savez quelle est votre fonction? Votre fonction en tant qu'enfant de Dieu, c'est l'honorer. Ah oui, j'ai oublié de faire une annonce aussi. Il y a des cours de base qui vont recommencer. Donc s'il y a des personnes qui seraient intéressées par un cours de base, vous pouvez venir trouver un membre de la Rada, Paolo, Piotr, Jeff ou moi, assez rapidement pour éventuellement rajouter à ce cours de base. Lumière du monde. La visite de Claude Villers la semaine prochaine. Donc, on aura. Ça fait bizarre de dire Claude Villers, on a l'impression qu'il n'est pas sage. Non, il viendra. Donc, chaque mois, on avait dit qu'on aurait un prédicateur des APEB. Donc, on aura un prédicateur de l'APEB la semaine prochaine.
Lumière du monde venue dans l'obscurité, tu m'ouvres les yeux et je vois. Tant de beauté que mon cœur émue t'adore, je sais que ma vie est en me voici pour louer, me voici à tes pieds, me voici pour dire tu es mon Dieu. Car tout en toi est beauté, tout en toi est grandeur, tout en toi est merveilleux pour moi. Thank you. tout en toi est beauté, tout en toi est grande, tout en toi est merveilleux pour moi. Lumière du monde venue dans l'obscurité, tu m'ouvres les yeux et je
recevez la parole d'exhortation dans Éphésiens, justement, dans la lettre aux Éphésiens, cette fois-ci, chapitre 5, verset 8. « Autrefois, en effet, vous étiez ténèbres, mais maintenant, vous êtes lumière. Dans le Seigneur, marchez comme des enfants de lumière. Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable à Dieu. » Amen. Et bonne semaine à tous.